17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Grand témoin aujourd'hui, c'est Slimane Azem, ou alors plutôt Hassan Iresh qui a commis un magnifique livre sur Slimane Azem paru aux éditions L'Harmattan dans la collection Espace littéraire. Slimane Azem, blessure et résilience. Bonjour Hassan, merci d'être parmi nous.
Bonjour Nasser, merci pour ton invitation, merci à ton équipe.
Alors, Slimane Azem, c'est quelqu'un qui est né en 1918, le 19 septembre exactement. Il a traversé le siècle de mille et une façons, on va le voir dans un instant. Et il a connu l'immigration, les guerres, la guerre 14-18, la guerre 39-45, la guerre d'indépendance de l'Algérie, l'exil, les souffrances, la discrimination. Et par son talent de comédien, il offrira de temps à autre des séquences exquises de divertissement radiophonique dans des sketchs où il ne manquait pas de distiller des critiques sur les normes sociales qu'il jugeait dépassées. En éclaireur et homme libre, Slimane Azem ne s'inclinait ni devant l'influence de la multitude, ni aucun diktat de tyran. C'est un révolutionnaire des mœurs et un patriote intransigeant dont le chant hymne « Farayajrat Amurtiou »« Criquet sort de mon pays » s'élève audacieusement contre le fait colonial et témoigne de son amour indubitable pour l'Algérie qu'il chantera jusqu'à la fin de sa vie.
مذنك سجي ضيد أشليم تحصد ضيام الهيشا
أفرا يجرد تامور ديو
الخير دو في ذزي محام
ما للقاضي الزنزل
لا ود العقل ما يصحى يا زراد فهمي مانيش في السين الداش وتسوير
يا زراد فهمي مانيش في السين الداش وتسوير
غس هجي ذق فرونيش اتو غلظة نسيدكير
غس هجي ذق فرونيش اتو غلظة نسيدكير
مولا شد نوبي يريش اتخلص الله ينسكشير
افضى يا زراد كامور ديو
الخردو في غزك يمحام
قاضي الزنزن
راود العقد ما يصحى هلك ضيين يا زراد في السفغ ضدك العلا
هلش ضيين يا زراد في السفغ ضدك العلا
في الصفر ورخضة مراد تبغي ضيض جض الشتلا
في الصفر ورخضة مراد تبغي ضيض جض الشتلا
إفاف الحل يعد وجراد يخيد الزهر ويحلا
أفضى يا زراد تامر فيه
الخير دو في غزك يمحى
ما قاضي الزنزن
داود العقل ما يصحى.
La poésie chantée de Slimane Azem éclaire avec acuité les questions liées au pouvoir politique, aux phénomènes de domination, aux méthodes de gouvernance, au droit, à la justice, à la paix, à la répression, à la morale publique et aux flux migratoires. Hassan Iresh, c'est quelques morceaux qui sont écrits dans ce magnifique livre Slimane Azem, blessure et résilience, paru aux éditions L'Harmattan, résume, si on peut dire ce mot-là, un peu ce chef-d'œuvre de Slimane Azem qu'il a baladé un peu toute sa vie. D'abord, cette chanson, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, à la fois une chanson contre le colonialisme et aussi contre l'autoritarisme et le néocolonialisme de l'après-indépendance incarné par Ben Bella et Ouari Boumediene. Alors, on lui a collé sur le dos cette idée d'anti-algérien, alors que dans votre livre, vous défendez l'idée du patriote algérien.
Tout à fait, c'est ça le paradoxe en fait. C'est que la colonisation, le considérer comme un élément subversif, perturbateur, qui donc était contre le fait colonial, il était combattu pour ça, il a été arrêté, il a fait de la prison. Et à l'indépendance, c'était l'inverse. On l'a considéré comme étant un antinational, comme...
On a dit que cette chanson a été contre l'arabisme.
On a interprété vraiment de toutes les manières, malheureusement. En fait, si on étudie bien le texte de Slimane Azem, on voit qu'il est fait en deux parties. D'abord, la première partie où il décrit l'Algérie d'avant la colonisation. Il compare donc le pays à un jardin où les fruits poussent à profusion, où la vie était absolument radieuse, était équilibrée, la nature, etc. Et puis, brutalement, vient le criquet. Et donc, il compare donc l'arrivée de colons, l'arrivée de l'armée française avec les colons, etc., à l'arrivée des criquets qui s'abattent sur un jardin et puis rasent tout, bouffent tout, etc. Et puis, comme il le dit, arrivent jusqu'à la porte et espèrent même ronger, manger les racines. Donc, Slimane Azem utilise un certain nombre de métaphores et il compare donc le jardin. Il le prend d'ailleurs à son mentor, c'est Mohandou Mohand, qui a cette expression du jardin Éden, donc le pays dans l'époque où il était un espace inviolé, où aucune invasion n'a mis le pied dans ces montagnes et ces vallées qui suffisaient largement à l'autoconsommation, l'autosubsistance, etc., à faire vivre les Kabyles donc de montagnes, mais aussi les Algériens de façon générale. C'est que la comparaison au jardin Éden, c'est pas seulement la Kabylie, c'est toute l'Algérie. Et lorsqu'il parle justement de l'arrivée du criquet, donc là, il prend position. Et il demande au criquet de sortir de son pays. Il dit « Frajala Tamurti », c'est-à-dire « Criquet, quitte mon pays ».
Quitte mon pays. Alors, et dans la pré-indépendance, on l'a affublé de tous les maux jusqu'à le traité de Harki, qui était l'insulte suprême.
C'est totalement inimaginable, parce que en fait, il y avait une contradiction. D'abord, Slimane Azem n'était pas interdit officiellement. Il n'a jamais été interdit. Il faut rappeler aux auditeurs que à l'indépendance, ces disques passaient à la radio nationale sur la chaîne 2. Et ce n'est qu'en 1967, lors de la guerre israélo-palestinienne, l'Algérie avait interdit un certain nombre d'artistes, de chanteurs, de cinéastes, etc., européens, notamment français. Donc il y avait une liste qui était dressée et qui était affichée dans tous les studios de la radio algérienne, avec les noms donc dont il fallait pas passer les œuvres. Et quelqu'un, à aujourd'hui on ne sait pas qui, est venu ajouter au stylo le nom de Slimane Azem à la fin de la liste, qui était dactylographié.
Donc, ça, c'est pas très connu, ça, ouais, comme anecdote.
Voilà, donc c'est Ben Mohamed, le grand poète, qui nous a raconté ça, et qui a vécu ça, et qui donc a essayé de savoir qui a pu rajouter ce nom au stylo, et on l'a su, peut-être qu'on l'a jamais su, peut-être qu'on le saura jamais. Donc c'est depuis, donc 1967, que ces disques, ces chansons ont été interdites jusqu'au 5 octobre, donc à la révolte du 5 octobre 88, où Slimane Azem a été réhabilité.
Alors, et en même temps, quand vous, bien sûr, ce qui est magnifique dans le livre, c'est qu'à la fois vous citez, vous écrivez les questions en tamazir, en kabyle, en berbère, et vous les traduisez tout de suite en français, et on comprend tout. Et vous dites à un moment donné, vous traduisez ce Slimane Azem, il dit « Si nous tolérons l'injustice, alors nous deviendrons des tambours ».
Tout à fait.
C'est, oui. C'est l'une de ses chansons.
Absolument. « Man amad il vatal, nougha lakwam tfal, kouliouna dih garouris ». Il appelle à ne jamais accepter l'injustice. Pour ça que Slimane Azem a été combattu à la fois par l'ordre colonial, a été combattu aussi par l'ordre dictatorial, parce qu'il ne supportait pas justement tout système qui mettait le bâillon au peuple, qui mettait une chape de plomb à la société. Slimane Azem est un insurgé, un sage insurgé.
Alors, est-ce qu'il n'est pas dans une tradition multiséculaire de ce qu'on peut appeler les Imazérones, puisque moi personnellement j'ai l'habitude d'écrire que les deux traits qui caractérisent le Kabyle ou le Berbère, quel qu'il soit, dans l'Afrique du Nord, c'est l'insoumission et le refus de l'injustice. Ce sont les deux traits caractéristiques qui impriment l'éducation du jeune Kabyle, du jeune Amazir, par les parents, dès leur petite naissance. Est-ce que, finalement, Slimane Hazem n'incarne pas cette prolongation ancestrale et il la revendique, il la met en lumière à travers, bien sûr, ce qu'il sait faire, sa poésie?
Absolument. Comme disait Marx, l'homme est un produit social. Donc il embrasse évidemment toute la culture amazir. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Berbères n'ont jamais voulu construire un État. Ils sont toujours restés une société sans État, parce que précisément, ils savent d'instinct que l'État est producteur de violence. Et donc, ils ont préféré faire de leur village de toutes petites républiques, des micro-républiques qui soient totalement indépendantes et sans système carcéral, sans hiérarchie politique, sans une autorité politique, etc. Donc, il y a une espèce de sociocratie, c'est-à-dire une démocratie partagée et de proximité. Et donc c'est une des raisons fondamentales anthropologiques qui fait que le peuple berbère n'a pas construit d'État.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Toujours avec Hassan Iresh pour son très bel hommage à Slimane Hazem, Blessure et résilience aux éditions L'Harmattan. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, ce que je défends depuis des années et des années, et si vous le mettez en lumière et vous l'écrivez, vous commencez à parler de Slimane Hazem, vous faites appel à Si Mohamed Mohamed, vous faites appel à Si Mohamed Hussein, bien sûr, vous parlez de Ben Mohamed et d'autres. Et moi, j'ai toujours avancé l'idée que Slimane Hazem, comme Si Mohamed Mohamed, comme Cheikh Mohamed Hussein, et j'en passe et bien d'autres, n'ont rien à envier à Confucius, à Socrate, à Léonard de Vinci. C'est une parole philosophique, et d'ailleurs, vous, dans votre livre, vous l'appelez le philosophe-poète.
Tout à fait, parce que il faut savoir que pendant des siècles, la pensée occidentale est passée par la poésie mise en théâtre. Quand on prend Racine, Corneille, Pirandello, Brecht, Shakespeare, et bien d'autres, c'était de la poésie, mais mise en théâtre. Et les Kabyles, les Berbères d'une façon générale, leur pensée est passée par le chant.
En plus, on peut parler d'Apuley, à Fouleil.
Absolument.
Qui est le père à la fois de l'art dramatique, qui est hellénique à l'époque, puisque absolument, c'était la Grèce, absolument, mais c'est un Kabyle.
Absolument. Et donc, toute la lignée, c'est Mohamed Mohamed, Cheikh Mohamed Hussein, Slimane Hazem, Louni Saïd Minglet, tout ça incarne, toutes ces personnes incarnent la pensée kabyle contemporaine. Et donc, à travers leurs textes, leurs œuvres, on lit toute l'âme berbère, et on y retrouve effectivement à la fois la philosophie politique, à la fois la critique sociale, à la fois la psychosociologie. On peut citer des cas, d'ailleurs je les ai cités dans mon livre. Quand on, par exemple, on écoute ou on lit une chanson comme par exemple Ifker, Ifker Mskin Migabastol, qu'a donc fait la tortue pour qu'elle traîne éternellement son fardeau sur les épaules, etc. Donc c'est des allégories qui montrent justement la soumission de l'homme et puis l'exploitation de l'homme par l'homme. Et on retrouve à la fois Étienne de la Boétie, on retrouve Rousseau, on retrouve Hobbes, on retrouve Karl Marx, on retrouve Proudhon, etc. dans toutes ces œuvres.
Et on retrouve le village universel.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on retrouve de Garcia Marca, de Victor Jara, de Pablo Neruda, d'Aragon.
Absolument.
On retrouve le village universel. À la fois le village, oui, mais aussi dans sa façon d'embrasser le monde.
Tout à fait, parce que tout simplement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, la société berbère d'une façon générale et kabyle en particulier a subi dans l'histoire à la fois des dominations, des guerres, des transformations radicales. Elle a dû affronter des péripéties extrêmement douloureuses. Donc elle a subi énormément de blessures. Et donc il fallait trouver des ressorts justement pour sa résilience. Et ces ressorts-là, c'est dans sa culture, c'est dans son histoire, c'est dans sa pensée philosophique et dans sa vision de la vie, avec évidemment tout ce qui concerne ses rituels, tout ce qui concerne ses croyances, tout ce qui concerne ses critères de la vie, sa vision.
Et en même temps, Slimane Hazoum, sans son village natal, ne serait pas ce qu'il a été. Et vous parlez de son village, vous consacrez un beau passage. D'ailleurs, on ne sait plus trop bien ce que veut dire le nom de ce village. Donc, vous avez plein d'hypothèses. Et un village dans lequel c'est plein d'imageries, d'imaginaires, de saints, de divinités qui ont bercé l'imaginaire de Slimane Hazoum et qui est un amoureux de la terre, un amoureux de l'environnement. Et vous dites, pour le poète, la terre parle et a un cœur battant. Vous le dites dans votre livre.
Tout à fait, parce que pour Slimane Hazoum, la terre circule dans ses veines. Moi, je connais très bien son village, puisque le mien est voisin, totalement voisin. Donc, je m'y rendais. J'ai deux sœurs qui sont mariées donc, dans son patelin, dans la même lignée. Et donc, dès l'âge de 13 ans, 14 ans, c'est là-bas, d'ailleurs, que j'avais découvert comment étaient cultivées les cacahuètes. Je croyais que c'était comme les olives. Et puis, finalement, non, c'est comme les pommes de terre. Donc, j'étais absolument très heureux de découvrir ça, étonné, etc. Donc, je connais bien Runigran, qui est un village adossé au mastodonte du Djurdjura, comme une montagne tutélaire qui domine donc toute la région. Et de ce village...
Mais c'est comme un manoir qui se cache derrière les remparts babyloniens.
Absolument.
Ça donne envie d'y aller.
Oui, tout à fait. Et puis on voit une grande partie de la Kabylie que décrit d'ailleurs l'Unisayet Minglet dans Izurer Fidurer et que Slimane Hazoum y envoie justement l'hirondelle. Il envoie l'hirondelle à Forkhefilelus pour explorer, pour aller voir les villages, les montagnes, les saints, les amis, la famille, où il lui demande de visiter pan par pan de la terre et village par village.
Et vous avez cette formule magnifique qui dit ce sont des panoramas exceptionnels devenus sa géographie intérieure. Je trouvais ça magnifique.
Absolument, c'est ça qui fait aussi son paysage verbal, et parce que tout simplement, il a ça dans le sang, dans les tripes. Et je crois que sa grammaire émotionnelle, il la tire justement de cette contrée totalement magnifique.
Vous parlez d'écosystème aspirant.
Oui, tout à fait, oui, parce que Slimane Hazoum a vu cette terre-là dès son enfance. Il y a vécu, il a gardé les chèvres et les moutons, et il allait donc... comme petit berger, gambader entre les rochers, dans les vallées, encaisser, etc. Et donc tout ça a fait effectivement un paysage verbal et une grammaire émotionnelle de l'auteur.
Et vous parlez beaucoup de la grammaire et des mots, et d'ailleurs on se demande comment des gens ont pu le mettre à l'index et le vouer aux gémonies, puisque vous parlez de ce magnifique mot qu'on a en tamazir, en kabyle, qui s'appelle tamours. Et nous, Tamour, c'est à la fois l'Algérie, c'est à la fois la Kabylie, et c'est à la fois le petit lopin de terre qui est légué par l'ancêtre. Tamour, c'est du Djavava. Donc, le même mot, Slimane Hazoum, est le poète et le chanteur de Tamour.
Oui, tout à fait. C'est un mot polysémique. Et Slimane Hazoum l'a utilisé dans tous ces sens-là. C'est-à-dire, il lui a donné effectivement une charge émotionnelle à la fois pour le pays, à la fois pour sa région, mais aussi pour son village et pour sa terre elle-même. D'ailleurs, une terre qui, en partie, a été spoliée dans un premier temps par des cousins restés sur place, et puis par l'État où ils ont construit des édifices officiels. Mais il a été réhabilité. Et aujourd'hui, la mairie de sa commune est en train de reconstruire sa maison, de réhabiliter complètement sa mémoire. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je disais que Sliman Azem nous a légué un paradoxe, en ce sens qu'au moment où il a tiré sa révérence, il revient en force. Au moment où il s'éteint, il revient rayonnant. Au moment où il n'est plus là, il triomphe. Au moment où on le spolie de ses droits, il triomphe justement de ses droits. Au moment où il a tout perdu, il a tout gagné. Il a tout gagné aussi bien en Algérie qu'en France. Parce que le président Macron aussi l'a inscrit parmi la liste des noms de personnalités qui ont fait la France. Et une place d'ailleurs lui a été accordée dans le 14e arrondissement.
Et dans, puis, le 15e, dans le 14e, oui, oui, place, oui, dans le 14e arrondissement.
Il y a absolument une place aussi dans sa ville où il a vécu les 20 dernières années, à Moissac. Il y a une place aussi, Sliman Azem, et puis en Moselle. Donc, et là, avec le 40e anniversaire de son décès, il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être montés. Et donc, d'ailleurs, le 28 janvier, il y a un grand hommage qui lui est rendu par une association de Moselle, Hasard.
Et Sliman Azem est un barde. D'ailleurs, vous employez ce mot dans le livre. C'est un philosophe poète, mais accessible. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un il ne faut pas être un éminent intellectuel, il n'intellectualise pas, il parle la langue du peuple. Et vous dites très justement que Sliman Azem, c'est peut-être un des rares artistes, peut-être avec Idir, hein, puisque Idir, on dit toujours que Idir c'est toujours un membre de la famille, oui. et a pénétré la famille kabyle, en particulier algérienne, de façon générale. Moi, j'ai toujours entendu dire ma mère comme dit Sliman Azem. C'est-à-dire c'est une référence morale, politique, éducationnelle, artistique, ludique. Donc, il était à la fois un barde, mais quelqu'un dans sa philosophie qui était accessible au peuple. C'était quelqu'un du peuple.
Absolument, parce qu'il a vécu avec ce peuple-là. Et dans ses débuts artistiques, il chantait dans les cafés avec les immigrés. Il était en symbiose totalement avec les gens de son pays. Et donc, c'est quelqu'un qui, avant d'arriver au Panthéon, a d'abord été aux côtés des siens. Et c'est quelqu'un, effectivement, dont les paroles sont devenues proverbiales. Comme on peut dire Confucius a dit ceci ou cela, ou Rousseau a dit ceci ou cela, ou Aristote a dit ceci ou cela, eh bien nous, les Kabyles, effectivement, femmes et hommes, très souvent, on reprend ces strophes, on reprend ces dires sous forme proverbiale.
Et Sliman Azem, vous le dites dans votre livre, le XXe siècle a été un volcan. Il a subi les éruptions du XXe siècle. Oui. Sliman Azem a été déchiré par l'exil. Oui. Et il dit, vous le dites dans votre livre, il est le lien entre l'ici et l'ailleurs.
Absolument, parce que Sliman Azem a un pied en Algérie, un pied en France. Donc c'est quelqu'un qui relie l'Afrique à l'Europe.
D'ailleurs, le mythe du retour était en lui et son cœur balançait entre les deux, quoi.
Il a beaucoup de compositions dans ce sens-là. Par exemple, Oulio Bakrit Khemim Madikim Ravirouh, ou bien Forchi Filles. Il y a beaucoup de compositions où il est pris comme ça dans une espèce de paradoxe. Il est tiraillé entre l'ici et là-bas. Et donc, Sliman Azem a exprimé non seulement l'exil, mais aussi la souffrance de l'exil et donc toutes les blessures que les Kabyles ont subies, aussi bien dans les deux guerres européennes, où les Européens se sont entre-déchirés et donc ont emporté nos villages dans ce tumulte, mais aussi les guerres sur le pays, même la guerre d'Algérie, mais aussi les répercussions des deux guerres mondiales, et la guerre de juste après l'indépendance, sans compter évidemment les deux ordres, l'ordre colonial, l'ordre dictatorial, qui ont broyé le citoyen algérien. Et donc Sliman Azem, on porte les stigmates et a décrit d'une façon absolument admirable, avec un talent hors norme, toute cette problématique, cette souffrance que l'homme a infligée à l'homme.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Hassan Iresh, Slimane Razoum, on vous a bien expliqué qu'il est dans cette espèce de réhabilitation, mais en même temps c'est une réhabilitation artistique. On le voit avec Origine Contrôlée, qui a repris Carte de Résidence, qu'on écoutera tout à l'heure sur l'antenne, avec Amzi, c'est-à-dire un groupe de jeunes Kabyles qui s'intitule « Comme avant ». Donc, sans nostalgie, mais avec une modernité incroyable, on reprend les textes de Slimane Razoum et on les chante en rap, en jazz. Et d'ailleurs, c'est le lot un peu de tous nos artistes, que ce soit Cheikh Hasnaoui ou Akli Hayatoun. On a des morceaux qui sont repris en jazz, qui sont repris avec des musiques modernes. Ça veut dire que la langue kabyle se prête à toutes les musiques, à toutes les compositions.
Tout à fait. D'ailleurs, l'une des compositions de Slimane Razoum qui a été reprise le plus souvent, un grand nombre de fois, depuis d'ailleurs les filles du Djurdjura, c'est Nourbed Ariafou. Et là, Slimane Razoum a fait un texte extraordinaire, prémonitoire, et qui complètement étonne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans ce texte, il dit Douni Touretharian, Thamanjar Thafan, Thugredra Kharmzman. La planète meurt d'épuisement, rabotée et usée, et l'on est à son dernier cycle. Donc, début des années 50, déjà, il appelait à préserver la planète. Donc, il est vraiment bien en avant sur les experts occidentaux.
C'est là où vous dites Slimane Razoum non seulement est un socio-historien, mais un visionnaire.
Absolument.
Vous le dites dans votre livre.
Un, il a prédit justement l'usure de la planète. Il parlait de ça veut dire tout simplement que l'homme a changé de face et il a multiplié d'activités et il menace justement la planète avec ces activités-là. Ce qui
donc,
est le discours d'aujourd'hui.
Donc un poète est éminemment moderne.
Un discours qu'il tenait il y a 70 ans de cela. Donc, moderne et visionnaire, où il a prévu, par exemple, l'alunissage sur la conquête de la Lune, où il disait, justement, où il a prédit aussi la montée dans fin des années 40, début 50, il a prédit aussi la montée de la Chine comme grande puissance, où il disait chinois, bien avant Alain Perfit, qui avait écrit son livre en 1967 sur
quand la Chine s'éveillera.
Donc il a été vraiment en avance sur son temps. Un autre exemple sur la bombe atomique, la menace de la bombe atomique, où il disait mais c'est la fin de la bombe atomique, nous ils ont inventé la bombe atomique et nous avons peur qu'il raye l'humanité carrément de la Terre, de la planète. Donc il a tiré la sonnette d'alarme bien avant les experts d'aujourd'hui. C'est quelqu'un, il faut le rappeler, qui n'a pas été à l'école. Il a fait l'école primaire jusqu'au CM1. Et donc, à l'âge de 11 ans, il partait pour travailler dans les fermes coloniales, dans la Mitidja, du côté de Stawili. Oui, et Slimane Razoum, malgré ça, a cette intelligence émotionnelle et il a donc compris les enjeux planétaires, les enjeux géopolitiques, les enjeux culturels et tout simplement aussi ce qui se passe autour de lui, et il a compris les souffrances de l'humanité et les menaces qui pesaient sur cette humanité. Et dans diverses composition, Slimane Razoum met le doigt là-dessus et avertit l'homme pour que il modère son modèle de vie. Il appelle à la sobriété. C'est un peu aussi Pierre Rabhi. On retrouve du Pierre Rabhi dans Slimane Azoum, ou plutôt de Slimane Azoum dans Pierre Rabhi, parce que Slimane Azoum était son prédécesseur.
Qui est le père de la permaculture et de la sobriété climatique, énergétique, alimentaire, qu'on connaît bien. Alors, non seulement Slimane Azoum est un très grand artiste, comme les plus grands artistes, il est dans la transgression, mais il est aussi dans l'innovation. Et à la manière de Molière, il a créé des sketchs, comme avec Cher Nordine, et puis il utilise à la fois le français, le kabyle, donc il invente une langue à la fois imagée et une langue parlée. Expliquez-nous.
Absolument, j'en parle là-dessus, c'est-à-dire qu'il utilise le français comme une langue kabyle, c'est-à-dire qu'il y a injecté toute la grammaire émotionnelle kabyle, il lui a injecté toute la symbolique, tous les rituels kabyle dans la langue française et dans un certain nombre de compositions, comme par exemple la Madame encore à bois, comme par exemple la version Folkifil le sang français, etc.
Algérie, mon beau pays.
Algérie, mon beau pays, absolument. La carte de séjour dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, Slimane Azoum a en quelque sorte domestiqué la langue française, et il en a fait, comme disait Kate Biesin, un butin de guerre. Et il lui a donné toute une charge émotionnelle propre à notre société, et qui fait que, d'ailleurs, les Kabyles aiment le français. Et je crois que ça traduit totalement dans ton dernier voyage pour la francophonie à Djerba.
Et Slimane Azoum, comme vous le disiez, il est en pleine réhabilitation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment on pourrait faire pour que les choses aillent plus loin, pour la reconnaissance à la fois de cette grande figure philosophique, culturelle, intellectuelle, poétique. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont vos attentes?
Alors, mes attentes sont très simples. D'abord, il serait extrêmement important de marquer le 40e anniversaire de son décès, qui est pour bientôt, le 28 janvier 2023. Donc il faudrait que à la fois les associations, mais aussi les institutions au niveau médiatique, marquent cet anniversaire-là. Deuxième point, c'est que il faut que l'État français rachète la maison de Slimane Azoum, qui est en ce moment en vente, qui est à Moissac, et en fasse un musée, comme on peut avoir la maison de Victor Hugo, la maison de Georges Brassens, etc. Donc que ce soit justement dans le patrimoine franco-algérien, aussi bien ici en France qu'en Algérie. En Algérie, ils sont en train de le faire, ils sont en train de reconstruire la maison de Slimane Azoum, et donc il peut être justement une passerelle entre les deux pays. Il peut être un moyen justement à la fois culturel, historique, artistique, pour réconcilier les deux pays, les deux États, parce que les deux sociétés sont réconciliées, mais malheureusement pas les deux États. Donc il peut servir justement comme étant une espèce de starter pour que enfin l'amitié franco-algérienne devienne une réalité, et qu'il y ait un pacte d'amitié entre les deux pays, et une stratégie commune sur un certain nombre de dossiers, notamment les dossiers méditerranéens et internationaux.
On peut peut-être terminer sur votre actualité à vous. Je crois que vous avez une ou deux conférences.
Oui, j'ai une conférence donc le 3 décembre à l'association TFLK à Montreuil. C'est un samedi à 15h. Et puis le 28 janvier, donc je serai plutôt la veille, donc le 27 janvier, à l'association AZA en Moselle. Et il y a d'autres. Je serai présent aussi au salon du livre franco-berbère à la mairie du 5e arrondissement ce week-end-là. donc du 26-27. Et puis, il y a d'autres propositions qui m'ont été faites dont les dates ne sont pas encore arrêtées.
En tout cas, nous, ça a été un vrai bonheur que de vous recevoir. On vous retrouve dans ce livre magnifique, Slimane Hazem, Blessure et résilience, aux éditions L'Harmattan, dans la collection Espace littéraire. Hassan Iresh, merci d'être venu nous voir et à très bientôt.
Merci pour l'invitation.
On se quitte sur la carte de séjour.
Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. خسروح كان هني مانيش ينا وغرم ذي ثمرتيش غفلو مورد تمسلتيش كل سذلي كونفيرانس كل سذلي كونفيرانس بوري تدي توليسانس Vraiment bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. Un gars là, le chôme à voir, des migrés qui se révèlent. Hier, nous sommes à l'Hessen, au Carnasti, il y a de la chance. Au Parnasti, il y a de la chance, mais ça aide la résidence. Toujours des conversations, le chômage, l'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce, chaque fois ça recommence. ياقي نصبر في تمور ثازي زنم الأمر ما يلي لزم السافر أغزر لدي في راس أغزر لدي في راس ما يلولش للريزيدانس Travail comme il est dur, c'est pour les migrés bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. نروح دا نخدم شي طوح في قان عزيزنا مروح ما يلي لزما غنروح الفوسي بير لي كونسيكونس الفوسي بير لي كونسيكونس يورا بلي دو ريمينونس Après tout, ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence. Le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance. سنجت روح ظل يطيج ذي كل ثامر ذي تفجيج ربي ذا حنني يتفرج يضمنا غمعيش دافانس يضمنا غنعيش دافونس جيسكا لا فان ديكزيستونس سيت افيك ان غران دو جوا كو جو في رونتري شي موا سي نورمال شاكان شي سوا سوفونير دو نوتر انفونس سوفونير دو نوتر انفونس افيك توت سي ريفيرونس
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.